Un crash boursier, c'est une chute brutale, soudaine et généralisée des marchés financiers. Généralement sur une très courte période, souvent une journée ou deux, il se distingue d'une simple correction ou d'un bear market progressif par les choses suivantes. Son intensité, on parle souvent de moins 10%, moins 15% ou plus en une seule séance. Sa rapidité, en quelques heures, parfois même en quelques minutes, les marchés perdent des milliards. Son effet psychologique, il est souvent alimenté par la panique, des ventes en chaîne, des ventes domino, des effets domino et des réactions totalement irrationnelles. Et sa portée, il peut rapidement se répandre à l'échelle mondiale comme un virus financier ou comme un virus informatique. Bon, si on parle de l'intensité et si on part du principe qu'entre mercredi dernier et les extrêmes bas de ce matin, on perdait 15% sur le S&P, on y est. Si on parle de la rapidité, on a perdu 6 600 milliards sur la semaine dernière et 2 000 milliards rien que cette nuit au hors bourse. Je crois que c'est Gaulle. L'effet psychologique et la panique à voir la tronche du VIX ce matin et des titres des journaux, on est au bord de l'apoplexie et le greed and fear est à 4. Pendant que le bull bear indicator ne ressemble plus à rien, donc là aussi, on a atteint l'objectif. Quant à la portée mondiale, je crois que la question se pose plus quand on voit Hong Kong qui se vautre de 11% et que le Nikkei est de retour au plus bas depuis le mois d'août. J'ose même pas imaginer l'ouverture de Londres ou de Francfort ce matin. Et puis c'est lundi et comme en 87, nous sommes donc en plein crash boursier made in Trump et pendant ce temps, bah lui, il joue au golf. Aujourd'hui, nous sommes le 7 avril, nous parlons crash boursier, sell-off et panique totale. Je m'appelle Thomas Veillet et bienvenue dans le Morning Bear Live. Les financiers du monde entier s'attendaient à un début de semaine plutôt calme, il faut le reconnaître. Le recul du week-end étant censé apporter un peu de réflexion à tout le monde, histoire de se reconstruire, de prendre de la distance et de se dire que finalement, c'est quand même pas cher Nvidia à 94$ et Apple à 187 et que c'était quand même débile de paniquer comme ça pour quelques pourcents de tarifs en plus. Eh ben, c'était sans compter Trump et sans compter la psychologie de marché. En me levant à 3h du matin, pour être sûr de rien rater, je tombe sur les premiers rapports de la nuit et c'est la panique totale. On reproche tout à tout le monde, mais on reproche surtout le fait qu'il n'y a pas eu d'arrangement sur les tarifs durant le week-end, sans compter que Trump sait toujours trouver les mots qui font plaisir. 38 ans plus tard, le Black Monday est encore une fois de retour parmi nous. Alors pour être franc avec vous, ce matin j'avais pour intention de revenir un peu sur ce qui s'était passé la semaine dernière, d'essayer de prendre les choses avec philosophie et de se dire que c'était peut-être l'opportunité de profiter de faire les soldes. Je voulais revenir sur les chiffres de l'emploi qui étaient meilleurs que prévu vendredi dernier et je voulais aussi vous résumer le fait que Powell n'a rien apporté de plus, si ce n'est que pour l'instant, pour lui, il est important et urgent d'attendre. On dirait d'ailleurs qu'il applique la politique du Conseil fédéral helvétique, la discrétion à l'extrême. Jérôme Powell a tout de même ajouté que les hausses de tarifs vont être plus grandes que prévu, et leurs effets aussi, plus d'inflation, donc moins de croissance. En gros, le patron de la Fed nous a tranquillement parlé de stagflation, puis il est reparti chez lui pour aller relire les mémoires de Paul Volcker. Paul Volcker qui reste quand même le seul banquier central américain qui a dû faire face à la stagflation dans les années 70. Et le seul banquier central qui a dû monter les taux à 20% pour calmer l'économie et coller une balle dans chaque genou à l'inflation pour qu'elle se calme. Mais en voyant les couleurs rouges qui clignotaient de partout sur mes écrans, bah j'ai rapidement compris que mon plan de vous raconter tranquillement ce qui s'était passé vendredi dernier n'allait clairement pas suffire. Et que ça allait même être carrément inutile puisque ce qui se passait en cette fin de nuit et de ce nouveau début de semaine n'avait rien à voir avec un lundi classique avec zéro volume où tout le monde s'emmerde en attendant les vrais chiffres économiques de la semaine. En l'occurrence, les vrais chiffres économiques de la semaine, cette fois, c'est les chiffres du CPI qui sortiront jeudi. Autant vous dire que les chiffres de l'inflation en ce moment provoque à peu près autant d'intérêt que le score que Trump a fait au tournoi de golf auquel il a participé ce week-end. Non, clairement, on est passé bien au-delà de tout ça, puisque dès les premiers trades du futur américain en ce dimanche soir, dès l'ouverture de Tokyo ou de Shanghai, le ton était donné. On était de retour en 87, ce fameux lundi noir.
Nous sommes donc en 1987. Les marchés actions sont en pleine euphorie depuis 2 ans. Le Dow Jones a gagné plus de 40% entre janvier et août. Tout le monde est bullish à mort, mais sous la surface, il y a quelques fissures qui commencent à apparaître. Taux d'intérêt en hausse, crainte d'inflation, dollars sous pression, tension entre les USA et l'Allemagne sur les politiques monétaires et surtout beaucoup trop de trading automatisé pour l'époque. Le lundi 19 octobre 1987, le Dow Jones perd 22,6% en une seule séance. C'est encore aujourd'hui la plus grosse chute en pourcentage en un seul jour de trading de toute l'histoire de Wall Street. Pourquoi ça a explosé? Les balbutiements des programmes de trading de l'époque, des ventes automatiques déclenchées n'importe comment dès que les seuils étaient atteints, un effet domino incontrôlable, un effet panique. Les investisseurs voient les machines vendre, donc ils vendent aussi. C'est le bordel total et personne ne comprend rien. Effet mondial, Tokyo, Londres, Paris, tout le monde suit, le crash est global. Pourtant, il n'y avait aucune vraie nouvelle ce jour-là. Juste un effet de panique auto-alimentée. Aussi fou que ça puisse paraître, il n'y a pas eu de récession dans la foulée du crash de 87. Alan Greenspan, qui vient d'arriver à la Fed, intervient très vite. Il ouvre le chéquier, il rassure les marchés avec le fameux « la Fed agira si besoin ». Certains pensent d'ailleurs que c'est la naissance du fameux « put » de la Fed.
Alors, je vous préviens tout de suite, hein, Powell a l'air tellement éteint en ce moment que je suis pas sûr qu'il vienne tout de suite agir aussi vite que ses pairs l'ont fait en 87.
Toujours est-il qu'en 1987, le marché mettra 2 ans avant de revenir au niveau d'avant crash. En résumé, ce fut un crash brutal, sans raison fondamentale, déclenché par des algos primitifs et amplifié par la panique, un choc mondial, mais une récession évitée grâce à une Fed réactive. Pas comme aujourd'hui.
Alors, vous allez certainement vous demander pourquoi je vous parle de ça. Ça fait aucun sens, il n'y a aucune similitude. Nous avons appris de nos erreurs en inventant le concept des circuit breakers qui se déclenchent à partir d'un certain seuil et qui ferment les bourses pour nous laisser réfléchir. Et que finalement, la seule chose qui est pareille, c'est le fait que les taux soient relativement élevés. Pas en hausse, mais on pourrait et on aimerait les voir plus bas. Ok, l'inflation est aussi un problème, comme en 87. Mais par contre, cette fois, les USA ne sont pas fâchés avec l'Allemagne. Bon, d'accord, ils sont fâchés avec tout le monde. Et puis comme nous sommes un lundi, je voulais remettre un peu de contexte, histoire que l'on sache de quoi on parle, puisqu'on va inévitablement parler de lundi noir, en ce lundi qui est plutôt très très rouge à l'instant où je vous parle. Cette nuit, lorsque les futurs américains ont ouvert, le S&P 500 était en baisse de près de 5%. Si on fait le total depuis l'annonce des tarifs mercredi dernier, nous étions à moins 14,5% de baisse sur l'indice américain. Depuis, on tente le rebond, mais c'est pas franc du tout. Pour le moment, nous sommes à moins 3,2% sur les futurs américains. Grosso modo, si on ouvre en dessous, dès 4950, le S&P 500, l'indice de référence, sera en bear market. Trump est au pouvoir depuis 70 jours et nous sommes passés par de nouveaux records historiques. Et là, nous sommes 20% plus bas et on parle de bear market. La volatilité semble donc être définitivement le maître mot de la présidence de Donald Trump, un peu comme il l'avait fait la première fois, d'ailleurs on l'a un peu oublié. La volatilité devrait ce matin atteindre en tout cas les mêmes niveaux que lors de l'affaire du Kerry Trade, en tout cas, à savoir plus de 60%, à moins que ce soit direct à 80% de vol. Alors vous me direz, ouais, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe pour qu'on panique autant que ça alors que globalement, il ne s'est rien passé et qu'il n'y a pratiquement rien de neuf au niveau des tarifs douaniers? Eh ben justement, c'est pour ça, entre autres. Ah oui, d'accord, il n'y a pas que ça, bien sûr, mais c'est une des raisons qui a allumé le feu, l'absence de nouvelles au niveau des tarifs. Lorsqu'on a bouclé la semaine au fond du trou vendredi dernier, tout le monde s'attendait à avoir des mouvements pendant le week-end et pas uniquement des réponses du berger à la bergère. Oui, les Chinois ont déjà répliqué vendredi, les Européens sont en train de préparer la réponse, mais il n'y a rien de neuf dans tout ça, rien de positif en tout cas, si ce n'est que la guerre commerciale est en train de s'intensifier comme jamais. Non, très honnêtement, ce que voulaient les marchés ce week-end, c'était des annonces comme quoi ça discutait et que certains pays étaient déjà prêts à venir négocier avec Donald à Washington et si possible en rampant. Mais rien, nada, que dalle, pas une photo, pas une carte postale, pas une demande de rendez-vous sur Calendly. La première bonne nouvelle de la semaine, c'est les Japonais qui vont annoncé qu'ils étaient pratiquement déjà dans l'avion pour Washington parce qu'ils veulent trouver un deal. Et c'est ce genre de news qu'on va chasser toute la semaine, même si les Japonais tout seuls ne suffisent pas à redonner le goût de l'achat. Et puis, pour donner un peu de grain à moudre, on notera que les autorités boursières américaines ont trouvé très à propos de venir rappeler que, dans le cas de la réglementation des circuit breakers, il était bon de rappeler qu'à moins 7%, les marchés fermeraient pour 15 minutes, qu'à moins 13%, on fermerait à nouveau pour 15 minutes, et que si l'on atteignait les moins 20% ensuite, eh bien les marchés américains fermeraient pour la journée. Bon, bah la bonne nouvelle au milieu de tout ça, c'est qu'on est certain que le record de 22,6% de baisse intraday atteint en 87 ne sera pas battu aujourd'hui. Mais alors pourquoi tant de haine et de peur sur les bourses mondiales ce matin? Et bien donc la première raison, on l'a dit, c'est que rien n'a bougé durant ce week-end et qu'a priori, le monde merveilleux de la finance s'attendait à du mouvement. Trump est allé jouer au golf tout le week-end et globalement, il ne s'est rien passé et ça n'a pas plu au marché. Mais ça n'était que le début, parce que en début de soirée, alors que le président de tous les Américains rentrait chez lui à la Maison Blanche, en avion, en Air Force One, il a déclaré, alors qu'on lui demandait ce qu'il pensait du crash boursier en cours, ah oui, parce que ça j'ai oublié de vous dire, hein. Depuis hier soir on parle plus de correction, on parle plus de bear market ou de sell-off, on parle de crash, c'est quand même bien plus classe et ça fait beaucoup plus peur. Donc alors qu'on lui demandait ce qu'il pensait du crash boursier en cours, le président a répondu
« Je ne veux pas que les marchés baissent, mais il faut parfois prendre des médicaments pour se soigner. »
Ce qui sous-entend qu'il va peut-être falloir serrer les fesses un peu plus de 24 heures pour guérir l'économie américaine et faire remonter les marchés. C'est en tous les cas ce que les experts en interprétation qui vivent à Wall Street ont compris des paroles de Trump. Dans la foulée, il a également dit qu'il ne signerait pas le moindre deal avec la Chine tant que le problème du déficit commercial entre les deux pays ne serait pas réglé, ce qui justifiait probablement la tôle du marché chinois très tôt ce matin. À l'heure actuelle, le Hang Seng plonge de 11% et Shanghai recule de près de 6%. C'est le bain de sang, il n'y a pas d'autre terme. Alors pendant un moment, il y a même l'or qui est repassé sous les 3000, juste avant qu'on se rappelle quand même que c'est un peu, à peu près, la seule valeur refuge qui nous reste, vu que le Bitcoin est aussi passé sous les 80 000 et qui se traite aujourd'hui à 78 000 $. Le pétrole est à 60 $ et personne ne voit le bon côté des choses. Avec le prix de l'essence qui va baisser, ça va bientôt coûter moins cher de rouler qu'un V8 biturbo plutôt qu'avec une voiture électrique fabriquée par Elon Musk. Sans compter que, socialement parlant, c'est tellement moche de rouler en Tesla que le choix va s'imposer de lui-même. Bon, en résumé, on est en train de se faire laminer dans les marchés, c'est la panique, le lundi noir, la volatilité s'envole et on va tous mourir. Enfin, pas tout de suite, hein, je vous rassure. Pour certains, Trump est en train de détruire l'économie mondiale et ce qu'il fait se rapproche de la folie furieuse. Mais néanmoins, selon un sondage effectué sur X, 57% des Américains approuvent la stratégie de Trump. Bon, entre vous et moi, je pense que le sondage a été fait parmi des Américains qui n'ont pas de portefeuille boursier, sinon j'imagine que la réponse serait un poil différente. Mais je ne prendrai pas position parce que, pour être honnête, j'en ai aucune idée. La seule question qui se pose ce matin, c'est de savoir ce qui doit se passer pour que les choses se calment et que l'on revienne un petit peu à la raison. Il n'y a pas de solution miracle, bien sûr, mais par exemple, il y a eu Bill Ackman, hedge fund manager de profession et milliardaire par passion et fervent soutien de Trump, qui a appelé le président à mettre ses tarifs sur pause pendant 90 jours, histoire de laisser le temps au reste du monde de venir négocier à Washington, toujours en rampant si possible. Ça serait effectivement un début de solution qui pourrait soulager les marchés boursiers. On a besoin de voir des choses avancer, de voir les choses avancer pour ne pas continuer à croire que le couteau va continuer de tomber à coup de 6% par jour. Bon, on sait tous que les marchés offrent un support très solide au niveau de zéro et qu'il est peu probable que les indices commencent à traiter en négatif, mais comme visiblement on a quand même réussi à le faire à l'époque du Covid sur le baril de pétrole, on n'a pas forcément envie d'aller vérifier si on est capable de le faire sur les actions également. Autrement, l'autre question qui se pose est de savoir à quel moment il faudra venir remettre les pieds dans le marché et s'il faut le faire. Avec un peu de rationalité, on sait que ça finit toujours par remonter. Même le Japon a battu des records historiques après plus de 30 ans de disette. Il y a donc toujours des raisons d'espérer. Aujourd'hui, la panique dans laquelle nous sommes ressemble fortement à de la capitulation à un jour près, ce mot magique que l'on cherche lors de chaque correction boursière, lorsque la volatilité explose, lorsque plus personne ne sait quoi faire et que tout le monde veut juste liquider toutes ses positions pour ne plus avoir besoin de subir cette couleur rouge qui fait mal aux yeux jour après jour. C'est cette zone-là, très précisément, qu'on va commencer à chercher. Une volatilité qui approche les 60%, des théories catastrophistes qui viennent de tous les côtés et les médias mainstream qui se foutent totalement de ce qui se passe sur les marchés boursiers le reste de l'année, mais qui se réveillent quand ils sentent l'odeur du sang. Oui, parce qu'il faut quand même reconnaître que c'est vachement plus vendeur quand tout va mal que quand tout va bien. Personnellement, je mesure le fond du trou lorsque la radio ou la télévision suisse romande me téléphone pour savoir ce que je pense de ce qui se passe. Ça a toujours plutôt pas mal fonctionné, et en tout dernier ressort, je prends le taxi, si le chauffeur a une opinion sur le crash boursier en cours, j'achète. Voilà, nous sommes donc en mode Black Monday, et il n'y a pas une nouvelle macro qui a passé le filtre. Pas une nouvelle tout court. Rien ne se passe nulle part dans le monde qui est plus digne d'intérêt que le crash du moment. Pourtant, cette semaine, il faudra quand même noter qu'il y a le CPI, mais peu importe le chiffre, hein, peu importe le chiffre, tout le monde dira que c'est irrelevant étant donné ce qui se passe dans l'économie et dans le système des tarifs mondiaux. Et puis, comme personne n'en parle, eh bien, on notera quand même qu'en fin de semaine, on aura les chiffres trimestriels des banques et que ce sera officiellement le début de la saison des résultats. Alors, je sais bien que tout le monde s'en fout à l'heure actuelle, mais quand même, JP Morgan, qui publiera ses chiffres le 11 avril, a tout de même perdu 25% depuis le 20 février. Alors, je veux bien croire que les tarifs, c'est la merde, mais quand même, lors des chiffres du trimestre précédent, on nous disait que si on n'avait pas de bancaires, on était profondément débiles. Et là, à 30% plus bas, on est quoi exactement? Bref, tout ça pour vous dire que ce matin, on peut parler de tout ce qu'on veut, faire tous les scénarios qu'on veut. Il suffira d'une nouvelle comme quoi Xi Jinping est en train de prendre l'avion pour Washington ou d'un moratoire de 30 jours pour les tarifs pour que le vent change de direction à la vitesse de la lumière. J'ai comme l'impression qu'on n'a pas tout à fait fini de rire encore. Mais une chose est sûre, pour moi, la bonne nouvelle, c'est que si on est de retour en 87, j'ai de nouveau 16 ans. Oui, parce que j'étais déjà dans une banque en 87, et il y avait déjà des gens qui venaient réclamer leur argent au guichet en pleine panique. J'ai presque l'impression que la boucle est bouclée ce matin. Pourtant, c'est simplement un nouveau chapitre qui s'ouvre. En attendant, Nvidia devrait ouvrir en baisse de 9%, et dorénavant, les marchés US ont effacé 13 000 milliards de market cap. Dire que dans ma vidéo du week-end, je parlais seulement de 11 000 milliards, tout va beaucoup trop vite. En tous les cas, bonne chance pour cette journée qui pourrait rester dans les annales. On notera quand même que selon le Stock Almanac, le Stock Trader Almanac, depuis les années 50, il n'y a eu que 3 occasions où le S&P 500 a subi une baisse de plus de 10% sur 2 jours, octobre 87, novembre 2008 et mars 2020. Reste plus qu'à espérer qu'avril 2025 ne soit pas le prochain sur la liste. On se voit demain pour avoir la réponse. Et puis, je précise encore que demain, je vais aussi vous offrir 2 vidéos supplémentaires. Je vous ai concocté 2 vidéos qui sont le fruit d'une réflexion profonde. Enfin, d'une réflexion tout court. C'est déjà pas mal. Il y aura donc 2 vidéos, une qui s'intitule « Et si Trump avait raison ?» et l'autre prendra le contre-pied de la première et se nommera « Trump se plante-t-il complètement ?» Comme ça, le débat sera ouvert et ça apportera un peu d'eau au moulin du crash boursier que nous sommes en train de vivre. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. Aujourd'hui, on va franchir la barrière fatidique des 50 000 followers et je vous dirai merci demain avec l'art et la manière. Et n'oubliez pas, bien sûr, de liker cette vidéo, de la partager, d'en parler autour de vous et de laisser vos commentaires pour me dire combien vous êtes fan de Trump et de ce qu'il est en train de faire. Très belle journée à tous, quand même, et à demain pour 3 vidéos sur la même journée. Bye bye.